dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'archéologie peut-elle modifier le cours de l'histoire? Depuis plus de 30 ans, la discipline a fait un boom, à la fois technique, technologique et méthodologique, ouvrant la voie à des découvertes significatives, permettant aussi de documenter autrement des choses sues ou méconnues, révélant aussi des pans ignorés de l'histoire, du berceau de l'humanité à la fondation des grands empires, de leur dislocation à la mondialisation. On y revient aujourd'hui avec notre invité, professeur à l'Université de Paris 1, Sorbonne, pionnier de l'archéologie préventive, Jean-Paul Demoule co-dirige Une vaste histoire des civilisations, un livre en coédition, INRAP La Découverte, une histoire qui rassemble les contributions de 70 spécialistes et montre comment l'archéologie a bouleversé nos connaissances. Bonjour à vous Jean-Paul Demoule.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ça y est, c'est la révolte des archéologues lors de la revanche a sonné sur les historiens.
Pendant longtemps, on définissait l'archéologie comme une discipline auxiliaire de l'histoire. C'est-à-dire que la vérité était dans les textes. Et puis les archéologues, avec leur pelle et leur pioche, ou plutôt celle de leurs ouvriers, étaient censés illustrer un petit peu. Et puis les choses ont changé. D'une part, on s'est aperçu que les textes étaient, comme on dit régulièrement, partiels et partiaux, parce que c'est uniquement ceux de des élites pour les élites. Donc si on veut des renseignements sur les techniques, le mode de vie, la santé, etc., on n'a pas dans les textes. Et deuxièmement, on s'est étendu à des civilisations sans écriture de plus en plus de par le monde. Donc l'archéologie est devenue, on peut la définir maintenant comme l'étude des sociétés humaines à travers leurs vestiges matériels, leurs objets matériels, ce qui fait qu'on peut même faire une archéologie du temps présent.
Donc vous dites, Jean-Paul Demoule, vous, aujourd'hui, la vérité est dans le sol.
Et oui, le sol ne ment pas, comme on a dit.
Qui a dit ça?
Non, c'est la terre ne ment pas.
La particularité de vos sources, et c'est aussi une des particularités du coup de cet ouvrage Somme, vous l'évoquiez souvent en non écrite des archives du sol, voilà ce qui vous réunit tous autour de cette nouvelle histoire des civilisations. C'est un regard décentré que vous nous proposez grâce à la participation de chercheurs du monde entier et une lecture du monde pas européo-centrée, puisqu'on se balade en Inde, en Afrique subsaharienne, au Japon, on se balade aussi du néolithique en Chine aux origines de la Russie, une approche universelle des civilisations. Est-ce que c'est surtout une nouvelle trajectoire que vous proposez tous ensemble aujourd'hui dans cet ouvrage?
Oui, d'une certaine manière, puisque c'est plus du tout vu du point de vue de l'Europe, et d'autre part qu'on s'est attaché et aussi justement puisqu'il y a à peu près plus d'un tiers de collègues étrangers, on s'est attaché à montrer la diversité des trajectoires. Depuis la fin du XVIIIe siècle, le schéma de l'humanité, c'était une ligne exactement un escalier qui culminait avec nous-mêmes, et on pouvait placer à des marches plus ou moins hautes les autres sociétés humaines. Là, maintenant, on s'aperçoit de leur diversité, la diversité de leurs choix, du fait que elles ont duré plus ou moins longtemps, qu'elles n'ont pas exactement forcément le même système socio-économique, etc. Il faut maintenant imaginer un buissonnement et plus un escalier, de même que pour les périodes les plus anciennes de l'humanité, avant l'émergence d'Homo sapiens, c'est plus une ligne avec des singes qui se redressent et qui se transforment en hommes blancs de plus en plus redressés, mais en file indienne, c'est effectivement un buissonnement permanent d'espèces.
Est-ce que cette recherche, cette nouvelle lecture vous amène aussi à redéfinir des notions, des concepts très utilisés jusqu'ici, dont la définition nous semblait presque acquise, comme le mot de civilisation? Quelle est votre définition d'une civilisation, Jean-Paul Demoule?
Vaste question. On a beaucoup discuté justement pour le titre de ce livre. Si on l'avait appelé Encyclopédie de l'archéologie, ça aurait été un peu trop technique. On parle plutôt en archéologie actuellement maintenant de société plutôt que de civilisation. Donc je pense qu'il faut donner qu'il y a effectivement au moins deux sens possibles en langue française, puisque les Allemands par exemple, ou même les Anglais, anglais l'utilisent pas tout à fait de la même façon. Il y a ce sens de société qui est celui qu'on utilise dans le livre, et puis il y a un sens plus vaste qui est ce que les Allemands appelaient jadis les Kulturkreis, les cercles culturels, qui sont un ensemble de données, puisque on peut dire que la civilisation dite occidentale traverse un certain nombre de sociétés.
Autre type de redéfinition avec des concepts qui sont furieusement d'actualité aujourd'hui, à travers ce regard de l'archéologie, on peut réfléchir autrement à la question même d'identité. Jean-Paul de Moule, vous l'écrivez avec vos co-auteurs, les peuples ne sont pas des identités stables de l'humanité, mais bien des faits culturels dont on peut saisir l'évolution. En quoi l'archéologie nous aide aussi à regarder cette question de l'identité qui nous préoccupe tous de manière moins figée, moins stable, moins établie?
Oui, elle montre justement qu'il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de France venue du fond des âges, comme c'est parfois ça a été dit et c'est parfois répété. C'est quelque chose de permanent, c'est-à-dire remodelage permanent. Pour prendre l'exemple de la fin de l'Empire romain, traditionnellement on dit catastrophe, les barbares arrivent de partout, etc. Or l'archéologie montre qu'il n'y a pas de catastrophe visible, que les grandes fermes romaines qu'on appelait des villas continuent à être occupées, mais des fois avec des techniques un peu différentes. Les villes se réduisent un peu, mais pas tant que ça. Quand on regarde les cimetières, bien en fait on ne sait plus très bien qui est qui. Il n'y a pas les Romains d'un côté, les Francs et puis les Gépides et puis les Lombards. On voit que c'est constamment mélangé, que la tombe du père de Clovis avait à la fois des armes de barbares entre guillemets, mais se représentait comme un empereur romain, se faisait appeler Rex, enfin roi. Donc c'est une période qui s'est étendue sur 2-3 siècles de métissage et de remodelage permanent. Et ça, on le vérifie à chaque fois dans les faits justement du sol.
Et on en revient à cette idée de cette science qui se pratique, l'archéologie aujourd'hui dans le monde entier, et ce qui n'est pas négligeable aussi sous les mers. Le cœur de l'archéologie réside dans ce qu'elle distingue, ce qu'est l'œuvre de l'homme par rapport à l'action de la nature. Aujourd'hui, on s'occupe en plus de l'humain et de son milieu. On parlait de ces formidables avancées que la discipline a faites depuis 30 ans, un boom à la fois méthodologique mais aussi technologique. À l'origine de ces bouleversements de la connaissance, il y a des nouvelles techniques. Vous pouvez nous en dire un mot?
Oui, c'est sans arrêt. On travaille en interaction étroite aussi bien avec les chimistes, les physiciens, les biologistes. Un point fondamental, c'est les méthodes de datation. Le carbone 14 a effectivement révolutionné, étendu beaucoup plus les chronologies, les durées. Mais on s'est aperçu qu'il n'était pas si fiable que ça, mais qu'il fallait le corriger par une autre méthode, d'androchronologie. La datation maintenant, grâce à une méthode qu'on appelle uranium-thorium, permet à faire reculer des structures trouvées dans des grottes qu'on attribuait à l'Homo sapiens. On s'est aperçu qu'elle datait pas de 40 000 ans, mais de 174 000 ans. La génétique, évidemment, des populations qui datent que de quelques années, fait que on sait seulement depuis 8 ans que vous et moi, on a un petit pourcentage de gènes de néandertaliens. On a découvert une nouvelle espèce ces toutes dernières années, parallèle à Néandertal, qui s'appelle Denisova et qui s'est aussi croisée avec les sapiens. On arrive maintenant à reconstituer les systèmes matrimoniaux, de voir si dans un cimetière, grâce à l'ADN, qui était allié avec qui est étranger, qui vient d'ailleurs. Donc c'est constant. Et il y a une méthode de radar par avion qui maintenant peut traverser le couvert forestier, a permis de découvrir des villes chez les Maya ou Cambodge, etc. Donc c'est constant. Ça suppose qu'effectivement c'est pas nous archéologues qui allons le faire. Il faut savoir ce qu'on peut trouver, mais aussi avoir un minimum de sens critique et pas prendre ça comme argent comptant, parce que c'est rarement aussi simple qu'on pourrait le penser.
C'est-à-dire qu'avant on datait parfois à la louche, un peu. Il y avait des datations qui étaient quand même un peu approximatives et qui modifiaient du coup le cours des discussions à table, mais aussi le cours de l'histoire. Jean-Paul de Moule, vous avez pris l'exemple qui est développé d'ailleurs aussi par Jean-Jacques Hublin, le paléo-anthropologue de l'Institut Max Planck en Allemagne, qui s'était rendu lui avec ses équipes sur le site de Jebel Irhoud au Maroc. Ils ont constaté que leur découverte repoussait de 100 000 ans l'âge de notre espèce et déplaçait nos origines plutôt vers le nord-ouest du continent africain, là où avant on le mettait plutôt du côté de l'Afrique du Sud. C'est une redatation des ossements qui ont été trouvés à ce moment-là. Et ça alimente autrement cette controverse et grande discussion sur le berceau de l'humanité. Alors qu'en est-il finalement? Est-ce que déjà ce berceau, il est unique?
C'était sûrement un berceau à roulettes. Et ce qu'ont permis ces travaux, notamment ceux de Jean-Jacques Hublin, puisque on connaissait déjà ces fossiles, mais on les avait pas encore datés, c'est que l'humanité n'est pas arrivée au sens Homo sapiens, au sens des hommes modernes, ne vient pas d'un point origine. Parce qu'on a toujours ce fantasme de l'origine, mais en fait il n'y a pas d'origine, il n'y a jamais eu d'origine, mais il faut imaginer un certain nombre de groupes de primates pré-Homo sapiens dans différents endroits d'Afrique et se croisant régulièrement et faisant que un certain nombre qui après vont sortir d'Afrique et puis vont se croiser aussi avec ceux qui étaient là avant, dont on parlait à l'instant, les néandertaliens, les dénisoviens. Donc c'est le modèle en réseau et plus du tout l'arbre généalogique qui, dans notre discipline comme dans d'autres, s'impose peu à peu.
Donc en fait, la vérité archéologique ne réside pas en un seul scénario. Il faut accepter la multitude des scénarios aussi.
Même en physique, la physique n'est pas complètement unifiée actuellement entre électromagnétique, interaction, etc. Et régulièrement, on change effectivement de paradigme. Nous, c'est pas tellement qu'on change de paradigme, c'est qu'on enrichit sans arrêt la documentation. Donc, on va vers des modèles qui sont de plus en plus complexes.
Et d'autres en font des films.
Mardi. Vous allez découvrir la nouvelle histoire de nos origines. Nous pensions tout savoir sur nos ancêtres, mais les dernières découvertes scientifiques ont tout bouleversé. Comment nous sommes-nous mis debout? À quelle différence devons-nous la survie de notre espèce? Quand sont apparus nos premiers sentiments? L'amour, mais aussi la haine. Comment avons-nous transmis nos connaissances? Depuis 30 millions d'années, qu'est-ce qui a progressivement fait de nous des hommes? Premier homme, un film événement à découvrir mardi à 21h sur M6.
Voilà, on pourrait presque faire des films événements comme celui-ci, Jean-Paul de Moule, tous les 5 ans, 10 ans, refaire le même film à partir de nouvelles découvertes. Est-ce qu'il y a un écueil, soit à se fonder sur des sources uniques, soit à ne pas accepter que l'histoire soit faite de mouvements?
Non, ce qui actuellement peut faire que les connaissances ont l'air sans arrêt de s'accumuler ou de contredire ce qu'on savait déjà, c'est que effectivement le berceau de l'humanité c'est l'Afrique, sauf preuve du contraire, et sur une durée de temps très longue, sur au moins 5 millions d'années, que c'est un continent gigantesque, pas si densément peuplé que ça, et où il y a des zones entières où on peut pas mettre les pieds pour des raisons géopolitiques. Donc toutes ces raisons font qu'il y a encore énormément de choses à connaître sur l'Afrique, d'ailleurs aussi bien sur les origines de l'homme que sur les origines de l'agriculture en Afrique, par exemple, sont encore très loin d'être réglées. Il y a des choses, on en parle justement également dans ce livre, il y a encore énormément de choses à découvrir. Donc la question c'est plus celle des découvertes. Si on connaît beaucoup mieux les pays pays, l'archéologie des pays industrialisés, c'est parce qu'il y a sans arrêt des travaux qui remuent le sol, et qu'il s'agit de pays qui sont riches, qui ont les moyens d'avoir des archéologues, et d'encadrer les découvertes. L'Afrique, c'est à peu près l'inverse.
Mais est-ce qu'il y a vraiment des trouvailles, des découvertes spectaculaires qui changent le cours de l'histoire, si on est sur ce rapport entre l'archéologie et l'histoire? On a plutôt l'impression, à lire votre histoire des civilisations, qu'il y a une multitude de micro-découvertes qui mettent à jour des processus historiques qui, eux, sont inattendus.
Oui. Malheureusement, l'archéologie, c'est pas les archéologues, c'est pas vraiment Indiana Jones. C'est pas la découverte du trésor qui va tout changer, même si c'est ça qui fait rêver les enfants ou les adultes autour de l'archéologie. Maintenant, une partie des découvertes va effectivement venir des résultats des sciences naturelles, des méthodes de datation, ce qu'on n'attendait pas. On parlait à l'instant de Jebel Hirouz. Des traitements statistiques, etc. C'est vraiment l'accumulation, c'est pas la découverte qui va tout changer, même si de temps en temps il y a des choses qu'on n'attendait pas. Par exemple, au début des années 70, on a découvert un cimetière néolithique en Bulgarie au bord de la mer Noire, avec plein d'objets en or qui sont les plus vieux de l'humanité et qu'on n'attendait pas, et qui nous ont montré une société beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait. Il y a des choses, mais c'est plus dans le sens de rendre plus complexe.
Et parmi toutes ces découvertes qui vous ont surprise, vous soulignez le cas du Japon. Comment l'archéologie a permis de repenser l'histoire même du Japon?
Parce que jusqu'à présent, on s'alignait sur ce qui s'était passé pour l'émergence de l'agriculture et de l'élevage, hein, et de l'agriculture sédentaire, sur ce qui s'était passé au Proche-Orient et qui concerne aussi l'Europe. Donc il y a des chasseurs-cueilleurs, ils se sédentarisent, ils domestiquent le blé. Et ils se sédentarisent parce qu'ils ont domestiqué le blé et moutons, chèvres, bœufs et porcs. Et puis ça va grossir et puis ils vont commencer à inventer aussi un peu le métal et puis à s'orienter vers des sociétés plus complexes. Et le Japon de ces dernières années, il y a une exposition actuellement au centre culturel japonais avec la civilisation culture dite de Jomon, hein, qui dure entre moins 13 000 à peu près avant notre ère et le dernier millénaire avant notre ère, hein, fait les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'on a des chasseurs-cueilleurs qui se sédentarisent et qui inventent la poterie tout de suite, alors qu'il faudra 2000 ans au Proche-Orient d'agriculture pour inventer la poterie, qui vont avoir des sociétés de plus en plus complexes, mais toujours sur une économie de chasse, de pêche et de cueillette, avec en exploitant les marronniers et les glands, en faisant des fois un tout petit peu d'agriculture, enfin plutôt du jardinage, mais sans vouloir aller plus loin, et en ayant déjà des formes de hiérarchisation sociale, mais toujours en étant chasseur-cueilleur. Donc ça fait partie des choses qui, effectivement, nous montrent la complexité des trajectoires humaines.
Et alors, autre exemple qu'on pourrait donner, c'est celle des origines de la violence. Je vous propose d'écouter l'archéologue Jean Guilaine, professeur au Collège de France.
Pendant très longtemps, la violence, c'était un peu comme le cannibalisme. Le cannibalisme étant considéré comme une sorte de violence. La violence, elle a longtemps été niée des archéologues. Et puis, on s'est rendu compte, petit à petit, qu'évidemment, la violence existait. Pendant longtemps, on a pensé que la violence, d'ailleurs, était le fait simplement des agriculteurs, c'est-à-dire des néolithiques et de leurs successeurs, n'est-ce pas? En pensant qu'à partir du moment où les néolithiques créaient des richesses, créaient des surplus, automatiquement, les surplus entraînaient l'envie, la jalousie, et que donc, on s'était battu pour s'approprier le bien d'autrui. Mais on pensait que les prédécesseurs, les chasseurs-cueilleurs, qui eux ne créaient pas de surplus, n'est-ce pas, ou probablement très peu, n'étaient pas violents. Or, on a trouvé des traces de violence déjà chez les chasseurs-cueilleurs. Il y a cet exemple du Soudan qui est bien connu, du Jebel Saaba. Plus récemment, on a signalé en Afrique de l'Est également des traces de massacres, en quelque sorte, entre populations de chasseurs-cueilleurs aux environs de 10 000 ou 9 000 avant notre ère. Donc, hélas, la violence a débuté avant le néolithique, mais je dirais que le néolithique n'a pas arrangé les choses et qu'effectivement, la création de biens, de richesses, de possessions a accentué le processus.
Et en fait, ce qu'on apprend en cherchant Jean-Paul Demoule, c'est plus de clarté qu'on arrive à trouver sur les causes de la violence. Et les causes de la violence d'aujourd'hui étaient déjà presque un peu les mêmes que les causes de la violence d'hier. La sédentarité, la pression démographique, la propriété aussi, parce qu'à travers toutes ces recherches, vous montrez à quel point les conflits ont augmenté quand les communautés ont commencé à se disputer pour des biens qu'elles ne souhaitaient pas partager.
Oui, parce que c'est un vaste débat qui dure depuis Thomas Hobbes et Jean-Jacques Rousseau. Est-ce que l'homme est intrinsèquement bon ou mauvais? Et les archéologues sont passés par des hauts et des bas par rapport à ce vaste débat. Dans les années 50-60, après la dernière guerre, on était plutôt pour le bon sauvage. Tout allait bien. Les Trente Glorieuses, les hippies, etc. Et puis, après, les choses ont commencé à se dégrader. Et les archéologues, effectivement, sont aperçus qu'on avait quand même beaucoup plus de traces de violence. Il y a eu des travaux en commun avec les ethnologues qui montrent que chez les chasseurs-cueilleurs, en Australie par exemple, où il n'y a jamais eu d'agriculture, la guerre existe. Enfin, la violence existe. Après, tout est une question de définition. Parce que ce qu'on a chez les chasseurs-cueilleurs, ça ressemble plus à des petites vendettas locales. Qui suppose qu'effectivement, il y a sans doute eu toujours de l'agressivité chez les mâles humains dès l'origine, et qu'on retrouve aussi chez nos cousins proches, les chimpanzés. Mais effectivement, pour parler de guerre, il faut vraiment attendre le développement du néolithique avec la territorialisation, avoir effectivement des choses à défendre, avec une population qui, à cause de l'agriculture, ne cesse pas d'augmenter, et dans des espaces qui vont être restreints et convoités, et les villages qui sont ouverts au début commencent à se fortifier en Europe ou ailleurs, à s'installer sur des hauteurs, etc. Et c'est là qu'on peut commencer à parler de guerre, et jusque-là, dans ces massacres épisodiques, on utilisait des outils, des armes de chasse ou des haches à couper le bois. Et puis là, on voit vraiment des objets inventés comme armes, épées, et puis les armes défensives, casques, cuirasses, etc.
On le voit sur quoi aussi? On le voit aussi sur les crânes, sur les squelettes,
oui,
découverts dans des silos. Ouais.
Bien sûr. Alors, et après, il faut interpréter, parce que le cannibalisme, c'est pas forcément une preuve de violence. Ça peut faire, c'est ce qu'on appelle des fois l'endocannibalisme, c'est-à-dire on ingère les membres de son propre clan. C'est pas forcément de la violence et de la guerre. Même le rituel de l'Eucharistie, c'est aussi une manière d'ingérer de théophagie qui est en dehors de la violence. Donc après, il y a des problèmes d'interprétation concernant ces questions de la guerre, hein, mais on arrive assez bien de mieux en mieux à faire la différence et à trouver les causes.
La question de l'interprétation, Lucie, est un bel exemple de ce que l'époque dans laquelle s'inscrit une découverte peut orienter sa qualification. Je vous propose d'écouter Claudine Cohen, qui est spécialiste de l'histoire de la paléontologie et des représentations de la préhistoire, auteur entre autres de « Femmes de la préhistoire ».
Alors il y a une histoire autour de Lucie. Vous savez que Lucie a été trouvée en miettes. Et donc tout le monde est là, extraordinairement joyeux. On chante la chanson des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, et on dit on va l'appeler Lucie. Mais à aucun moment il a été possible d'identifier, surtout sur des vestiges en tout petit en miettes, une femme ou un homme.
Donc ça veut dire que ce serait peut-être Lucien.
Ce serait peut-être Lucien, mais je crois qu'il y a une raison assez intéressante à cela, c'est qu'on est donc en 1974, à un moment où aux États-Unis les mouvements féministes se mettent à repenser la femme préhistorique. Et précisément, ils essayent d'ancrer la réflexion sur les femmes du présent dans une réflexion sur ce qu'elle était dans le passé. Ils essayent de magnifier ce passé de la femme. Et donc, il y a des tas de livres, des conférences sur la femme préhistorique, sur toutes ses qualités, sur tout ce qu'elle a réalisé pour l'humanité, tout ça qui avait été un peu oublié par les préhistoriens jusque-là. Et je crois que parler de Lucie, nommer cet australopithèque Lucie, c'est une façon de rendre hommage aussi à cette nouvelle place que la femme occupait dans la société américaine et dans les féminismes américains de cette époque.
Jean-Paul de Moule, beaucoup d'historiens et surtout d'historiennes ont montré que les femmes étaient les grandes oubliées de l'histoire. Visiblement, elles seraient aussi les grandes oubliées de la préhistoire et des archéologues. Cette histoire de Lucie, c'est aussi une manière de leur rendre justice.
Oui, il y a tout le débat sur le sexe de l'Australopithèque en question est toujours pas réglé parce que c'est des problèmes de telle ou telle forme, de tel ou tel petit bout d'os.
Votre intuition à vous?
Je l'ai jamais vu en vrai et je suis pas anthropologue, donc moi ça m'allait bien que Lucie, c'est plus joli que Lucien, mais c'est vrai que ça procédait de tout un contexte. On s'est mis à parler aussi de lèvres africaines à cette époque-là, quand avec la génétique des humains actuels, on essayait de les faire descendre tous d'une Ève originelle, mais on était toujours aux États-Unis, donc il y avait non seulement il y a le fait féminisme, mais il y avait aussi le poids de la religion et le fait de retrouver des mythes bibliques a pesé évidemment pour ça. Il y a eu aussi le fait que en préhistoire les représentations humaines les plus anciennes sont des représentations uniquement de femmes et de femmes avec des caractères sexuels exagérés. Donc on a dit la fécondité, la fertilité, on est même été plus loin dès le 19e et jusqu'à maintenant en disant mais finalement c'était des sociétés matriarcales. C'est les femmes qui avaient le pouvoir et c'est les hommes qui l'ont pris après. Donc c'est des choses qui sont effectivement très présentes quand on est dans le champ de la science, d'arriver à se départir du poids de l'idéologie dans laquelle on baigne. Et effectivement, il y a eu pendant longtemps, l'histoire était uniquement non seulement l'histoire des dominants, mais l'histoire des dominants mâles.
Donc on peut dire aujourd'hui que les femmes ont quand même réalisé des grandes choses aussi pour l'humanité. Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce qu'elles ont permis de faire avancer dans l'agriculture par exemple?
Certains ont supposé que c'était plutôt les petites filles qui avaient domestiqué les animaux, parce que les hommes, les garçons, quand ils voyaient passer un mouton sauvage, le réflexe c'était de le tuer. Mmh. Tandis que là, c'est l'idée de capturer des petits animaux et de les élever est venue plutôt. Enfin, on a souvent invoqué cette empathie qui est plus forte chez les femmes que chez les hommes. Si on peut se risquer à faire ce genre de généralité.
Un mot quand même de cette question de l'interprétation. Est-ce que l'archéologie est aussi un champ idéologique? Est-ce qu'il y a de l'idéologie en archéologie?
Dans toutes les sciences humaines et sociales, on part forcément d'un certain point de vue. Donc, quand on a pendant longtemps fait l'histoire des civilisations comme une marche triomphale qui aboutissait à nous-mêmes, c'est pas un hasard. Quand dans les programmes scolaires, on explique qu'on saute la préhistoire et le néolithique et on commence avec les grandes civilisations, Mésopotamie, Égypte, Grèce et Rome, ça veut dire qu'on se pose pas et on pose pas aux enfants la question de comment on en est arrivé là et on pose l'État, les rois, les armées, les bureaucraties comme un donné, on part de là. Donc on peut être sans arrêt dans l'idéologie. Le travail des scientifiques, c'est d'essayer de faire la part des choses.
C'est pour ça que vous parlez aussi de l'archéologie aujourd'hui et du boom des découvertes ou de la connaissance qui peut se produire depuis une trentaine d'années comme d'une révolution silencieuse, parce que c'est aussi une discipline qu'on a eu parfois du mal à entendre ou qui a eu du mal à se faire entendre des autres, qu'on a préféré mettre de côté.
Ça a été lié à chaque fois au roman national qui s'est construit. En France, les Gaulois étaient des barbares et des vaincus, donc on les mettait de côté. Et dans le grand musée au centre de la capitale, on trouve que des objets grecs, romains et orientaux. Et les objets trouvés en France sont mis de côté. Dans d'autres pays, au contraire, ça joue un rôle central. Dans d'autres pays même, c'est manipulé. Il y a quelques années, des archéologues hindouistes ont sorti et ont prétendu, sous une mosquée du 16e IIe siècle trouver un temple hindouiste où serait né le dieu Rama, et donc il y a une foule d'hindouistes déchaînés qui a détruit la mosquée pierre par pierre, d'où des émeutes dans toute l'Inde à cette époque-là. Dans les années 90, au Proche-Orient, c'est évidemment hyper sensible, ces questions sur le qui était là le premier, qui était qui, beaucoup les régimes autoritaires souvent ont essayé d'exploiter l'archéologie, et c'est toujours pas terminé.
Et à propos de récits nationaux et de grandes trajectoires aussi, à travers cette vaste histoire des civilisations, Jean-Paul Demoule, vous montrez notamment comment on peut repenser cette question de la migration, des migrations. Si aujourd'hui la sédentarité est devenue la norme, hier le déplacement était la règle, et on peut citer comme exemple l'aventure humaine qui illustre la grande aventure viking qui en 4 siècles a sillonné les mers et les océans, de la Scandinavie à la Méditerranée. C'était peut-être le premier trait d'union, et c'est eux qui l'ont réalisé entre l'ancien et les nouveaux mondes à l'époque. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça de migration dans le passé.
Oui, c'est la non-migration qui est plutôt l'exception. Les humains ont toujours migré dans tous les sens. On peut pas trouver de contre-exemple sérieux. Et le cas des Vikings est un des plus fascinants, puisque effectivement ils vont vers l'est, remontant la Volga, fonder le premier État russe dans l'Ukraine actuelle, atteindre Constantinople, de l'autre côté occuper la Sicile en particulier, mettre les pieds en Islande qui était inoccupée jusque-là, et de là coloniser le Groenland, puis atteindre au moins Terre-Neuve dans les Amériques. Et donc rien les y obligeait, ils n'étaient pas obligés d'aller si loin. Il y avait une espèce de curiosité, de fascination pour des terres de plus en plus lointaines. En même temps, c'est aussi un exemple de colonisation qui quelquefois ont avorté, puisqu'ils ont découvert entre guillemets l'Amérique, mais finalement ils n'en sont pas restés. Et même au Groenland, plusieurs colonies qui se sont éteintes. Mais c'est un des exemples les plus remarquables avec les grandes migrations polynésiennes.
Pourquoi a-t-on besoin d'archéologie aujourd'hui ? En quoi est-ce une nécessité de se tourner encore et encore vers le passé ? Vous y répondez tous à votre manière dans cet ouvrage collectif dont il est écrit, où il est écrit dans la préface, qu'étudier le passé, c'est perpétuer la longue chaîne de ceux qui ont vécu avant nous pour jouer notre rôle dans la continuité de l'évolution des groupes humains. Et si on imagine qu'on est un maillon de la chaîne, c'est que la chaîne va aussi se perpétuer, continuer. L'archéologie, c'est aussi une science de l'avenir, Jean-Paul Demoule ?
Ben oui, il faut espérer que ça va continuer, même si tous les systèmes sociaux s'écroulent au bout d'un moment, à un moment ou à un autre, au bout de quelques siècles. Mais si on sent très bien un intérêt croissant pour l'archéologie, quand on fait des journées portes ouvertes sur les chantiers, ou justement le succès maintenant des livres d'archéologie, des émissions d'archéologie, c'est que on a envie de comprendre justement d'où on vient, de savoir si ce qu'on est en train de vivre est déjà arrivé ou pas. Et puis, on a besoin de se situer dans le passé, plus le destin tragique de l'humanité, qui est que chaque humain est mortel, a besoin de se rattacher à quelque chose. Alors, pas forcément, justement, à ce mythe des origines et de l'identité, mais à cette réalité de la trajectoire globale de toutes les sociétés humaines.
Vous vouliez rapatrier le musée d'archéologie nationale sur l'île de la Cité, de Saint-Germain-en-Laye, sur l'île de la Cité. Vous avez obtenu gain de cause ?
Non, toujours pas. C'est un symptôme, justement, que au centre de Paris, il n'y a que les Grecs et les Romains qui ont droit, et le territoire national, il est toujours dans une banlieue lointaine.
Voilà, vous voulez ramener les Celtes et les Francs. Ouais, merci beaucoup Jean-Paul Demoule. Cet ouvrage a été co-dirigé par vos soins et par ceux de Dominique Garcia et de Alain Schnapp. 70 autres contributions spécialistes du monde entier contribuent donc à cette nouvelle et vaste histoire des filisations qui paraît une coédition La Découverte, INRAP. Merci à vous. Un grand merci aussi à toute l'équipe de La Grande Table, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des Idées, à Henri Leblanc et Aurélien de la Croix pour La Grande Table Culture, avec l'aide précieuse de Jeanne Copé et de Jordan Joseph. À la réalisation aujourd'hui, Marie Placet avec Audrey Guélil. Très bel après-midi à tous sur France Culture.